se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC. RMC, l'interview.
Apolline de Malherbe.
Bonjour François Bayrou.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions sur RMC et BFM TV. Vous êtes le maire de Pau, vous êtes président du Modem, vous êtes à la planification, mais vous êtes aussi, et bien sûr, un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui avait dit qu'il allait vaincre les extrêmes. Il y a deux fois plus d'extrêmes aujourd'hui dans le vote. Il y a un vote anti-système, il y a un vote de colère. Qu'est-ce qui a raté ?
Bon, les sociétés dans lesquelles nous vivons... Pas seulement en France et pas seulement en Europe. Regardez la situation aux États-Unis. Sont des sociétés qui sont traversées par d'incroyables secousses, qu'on dirait sismiques, si c'était si on parlait de tremblements de terre sur la Terre. C'est des choses aussi graves que celles-là. Pourquoi ? Parce qu'un très grand nombre de repères ont été effacés. Les sociétés traditionnelles sont organisées autour de repères religieux, par exemple, et ces repères religieux s'effacent. L'omniprésence médiatique instantanée et les réseaux sociaux, par exemple, tout cela expose les sociétés à de très lourdes secousses.
Sauf d'Emmanuel Macron.
Non. Je n'ai pas de raisonnement simpliste comme ça, mais je pense que c'est très... Encore une fois, vous regardez les États-Unis et vous voyez une société encore plus fracturée que la nôtre. Et nous, on a une société... Pardon, c'est un de mes thèmes depuis longtemps. On a une société qui est absolument fracturée entre le bas de la pyramide sociale et le sommet... ou prétendu sommet, parce que je suis pas sûr qu'il y ait un sommet.
On va en parler de ces fractures.
Et donc, cette fracture-là a fait que un grand nombre de nos concitoyens se disent « j'ai pas ma place dans ce système », ou en tout cas, on ne me reconnaît pas, ma voix ne compte pas, d'où tous les problèmes institutionnels sur lesquels, vous savez, je me bats depuis longtemps. Les choses ne changent pas vite dans une société, bien qu'en France, on ait créé, comme vous savez, beaucoup d'emplois. Ces cinq dernières années, on ait fait revenir beaucoup d'entreprises. Le climat, du point de vue du chômage, a changé.
Et d'ailleurs, Emmanuel Macron vise le plein emploi. C'est l'un de ses objectifs.
Si on remontait il y a cinq ans, si vous remontiez votre émission il y a cinq ans, vous verriez qu'il y a cinq ans, le chômage était omniprésent. Aujourd'hui, c'est plutôt
le pouvoir d'achat.
Voilà.
Donc, c'est pas forcément la question juste de l'emploi. Mais François Bayrou, pardon, je vous repose la question. Il avait bien dit, en effet, et il connaissait, comme vous venez de le décrire, la situation à la fois internationale et puis de ses colères. Mais il avait dit qu'il allait les vaincre, ces extrêmes. Est-ce qu'il y avait quand même des choses à faire qui n'ont pas été faites, ou est-ce que tout simplement, c'est comme ça ?
Non, ce n'est pas comme ça. C'est jamais comme ça. Jamais je n'accepterai le défaitisme, ou en tout cas l'idée que faut baisser les bras, que vous vous souvenez, François Mitterrand avait dit à propos du chômage, on a tout essayé. C'est pas vrai, on n'a pas essayé, on n'a pas tout essayé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez bien, il y a eu trois tsunamis absolument imprévisibles, inattendus. Le premier, ça a été les Gilets jaunes, qui est une colère sociale. Ou en tout cas une colère autour de ce thème de la reconnaissance, de la place de chacun, et qu'il faut scruter très attentivement, ce que j'essaie de faire. Les Gilets jaunes, ça ne venait pas d'il y a six mois.
Hein. Un sentiment d'injustice.
Ça venait de 30 ans, 30 années. Et puis derrière, il y a eu l'épidémie, totalement inattendue, immense secousse planétaire, l'économie de la planète s'est arrêtée, et troisième secousse, l'Ukraine, la guerre en Ukraine.
Encore une fois, François Bayrou,
nous sommes au cœur de tout ça.
Ce sont des épisodes qui sont arrivés pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Je vous pose la question plus directement. Est-ce qu'Emmanuel Macron a une part de responsabilité, lui, dans le fait que
tout le monde, vote extrême est augmenté ? Je crois qu'il l'a dit d'ailleurs. Hein. Tout le monde a une part de responsabilité, y compris bien sûr celui qui incarne
la
vie du... Si, mais sans doute. Évidemment, les gouvernants ont une part de responsabilité. Lui et tous ceux qui ont précédé, il a une part de responsabilité. Ceux qui le soutiennent ont une part de responsabilité. Ce n'est pas le principal auteur de la difficulté dans laquelle nous sommes. Nous avons, tous ensemble, les hommes politiques et les médias, la majorité et l'opposition, nous avons tous ensemble échoué à cicatriser quelque chose dans la société française.
Comment on fait maintenant ? C'est-à-dire qu'il y a la question de l'élection, de qui va sortir. Il semble, dans les derniers sondages, que l'écart se creuse dans les intentions de vote et que finalement, Emmanuel Macron, aujourd'hui, n'est pas forcément dans la crainte de perdre. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Est-ce que vous vous dites d'abord, un, on a un peu moins peur, nous, que notre candidat ne perde ? Et deux, comment vous faites une fois que vous êtes à nouveau à l'Élysée pour réconcilier tout le monde ?
Alors, moi, je suis absolument réservé en face de la satisfaction. Je pense que la situation est toujours lourde de menaces, particulièrement entre les deux tours d'une élection présidentielle. C'est plein de coups de théâtre et de risques. Il faut donc un engagement sans...
Il ne faut pas se dire que tout est joué.
Voilà, sans lever le pied, si j'ose dire. Mmh. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut faire ce que le président de la République a fait hier et avant-hier, c'est-à-dire sur le terrain, avec les Français, y compris...
Il était temps, non ?
Oui, sans doute.
Enfin, vous avez sans doute regretté qu'il ne fasse pas plus campagne.
Non, je...
Ça fait longtemps qu'on
Je ne veux pas utiliser de jugement de cet ordre.
Vous dites régulièrement qu'il faut quand même descendre dans l'arène. Vous faisiez partie de ceux qui disaient qu'il fallait mener le grand débat après les Gilets jaunes. Je n'imagine pas que vous ayez été satisfait qu'il ne fasse pas campagne.
Dans votre imagination... Non, je ne veux pas. Je ne veux pas critiquer.
Vous ne voulez pas critiquer, mais j'imagine que vous avez quand même... Non, vous auriez voulu qu'il descende dans l'arène plus tôt.
Je suis très content. De son itinéraire dans le Pas-de-Calais et le Nord. Je suis très content de son itinéraire en Alsace. Je suis très content du contact direct. Vous savez, votre outil de travail, la télévision, il y a une analyse très simple, ça ne s'écoute pas, ça se regarde.
Bah, ça s'écoute aussi à la radio.
Oui, à la radio. Mais
Nous sommes aussi sur RMC, je vous le rappelle.
Je parle de la télévision, qui joue un rôle très important. Les images jouent un rôle.
Montre en direct ces moments d'échange, ces moments de meeting, pour que chacun puisse se faire son idée.
Et moi, je regarde ses yeux. Et il est en prise directe avec les gens. Il n'est pas en campagne, serrant des mains, sans regarder les gens, ce qui arrive assez souvent aux hommes politiques. Il est dans la prise directe. Et c'est une dimension essentielle de la responsabilité d'un président de la République. Le président de la République, il incarne les institutions, et précisément parce qu'il incarne ce qu'il y a de plus élevé dans la démocratie, il faut qu'il soit le plus proche possible des gens. Et donc je trouve que ça, c'est une chose nécessaire. Deuxièmement, il faut, ça fait très longtemps qu'on cherche et que je plaide pour cela, il faut que les responsables publics apprennent à parler la langue des gens, la langue la plus simple,
la plus directe. Quand on regarde, vous parliez de ce qui s'est passé notamment dans le Nord, quand il a, comme vous dites, été au contact de la population. Une des premières choses qui lui a été dite, c'est sur la retraite à 65 ans. Il lui a été immédiatement reproché par tous ceux qui étaient là, qui lui ont dit, mais vous ne savez pas ce que c'est que de travailler jusqu'à 65 ans, et qui lui ont exprimé une forme de douleur, d'incompréhension quasi physique de cette demande de travailler plus longtemps. Depuis, d'ailleurs, il a fait évoluer, sans qu'on en comprenne complètement les contours, il a dit on peut faire évoluer même si le cap de 65 ans est maintenu. Oui. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas eu une erreur dans la compréhension de la douleur des gens ?
L'annonce de la retraite à 65 ans, qui a été faite de manière un peu brutale ou très brutale, ne correspond pas à la réalité. Parce que la première chose qu'il aurait fallu commencer par dire, c'est un, on va tenir compte des carrières longues, des gens qui ont commencé à travailler tôt, et deux, on va tenir compte de la pénibilité du métier. Si vous avez ces deux entrées-là, ces deux porte d'entrée.
Oui, mais quand
à ce moment-là, l'idée de la retraite.
Quand on parle de l'âge, si vous avez commencé à travailler à 20 ans, vous allez devoir cotiser jusqu'à 65 ans pour pouvoir partir malgré tout.
Non, mais je ne crois pas ça. Si vous avez commencé à travailler tôt, si vous avez les annuités nécessaires, singulièrement ou particulièrement si vous avez un travail pénible, alors à ce moment-là, vous pouvez partir plus tôt. Vous m'avez beaucoup entendu plaider sur ce sujet. Je pense toujours aux femmes. Ce sont souvent des femmes qui travaillent dans nos CCAS, celles qui vont lever des personnes âgées.
C'est dans l'action sociale.
Toute la journée. Et qui se trouvent avec mal au dos, des troubles, comme on dit, musculo-squelettiques. C'est pas la même chose que de travailler dans un bureau.
Ça a été mal présenté, ça a été trop brutal.
Oui, et en plus, ça ne correspondait pas à l'idée qui était celle de l'entrée dans ce sujet, puisque vous savez qu'on avait commencé par, d'une certaine manière, la retraite choisie, le fait que...
On ne comprend plus grand-chose. C'est-à-dire que ça a été un peu mal emmanché, comme vous le reconnaissez vous-même. Je voudrais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont commencé à travailler, peut-être pas si tôt, mais peut-être à 21, 22 ans, est-ce que vous leur dites, vous devez travailler jusqu'à 65 ans. Vous avez bien parlé de ceux qui ont spécifiquement une dénomination de pénibilité dans leur travail, mais il y a aussi ceux qui ont juste travaillé tôt, sont serveurs, qui sont quand même fatigants.
Ah, je me réfère à ce que le président de la République a dit. Il a dit, on va aller progressivement.
Avant le premier tour ou après le premier tour?
Après le premier tour.
Ah, voilà.
On va aller progressivement jusqu'à 64 ans. Et on va aller jusqu'à 64 ans à un terme qui
est. Au début, il avait quand même dit 65. Vous votez finalement 64.
Mais on va aller. Il n'y a pas de différence, je veux dire. C'est un mouvement progressif. Et il y a eu une erreur de communication si on a laissé penser que ce mouvement progressif allait être un mouvement brutal. Ça n'est pas vrai. Il y a une deuxième chose à dire qu'on ne dit jamais. Le quinquennat ne s'achève pas le soir du 24 avril. Après, le quinquennat commence. Et le quinquennat, nouvelle majorité,
s'il est réélu,
s'il y a une majorité, tout ça n'est pas simple, alors commence la réflexion du gouvernement. Et dans la réflexion du gouvernement, les parlementaires qui vont être élus, et l'opinion publique, et vous, allez jouer un rôle. C'est un débat. Je trouve que l'idée de bloquer la réflexion sur une action publique aussi importante que sur ce sujet comme sur d'autres, je pense à l'école par exemple, ça commence à partir de la nouvelle majorité du nouveau gouvernement. Le Parlement n'est pas servile. Il ne doit pas être. Voilà.
Il
ne devrait
pas
être servile.
Il ne devrait pas l'être.
Dans ma conception.
À la radio, je vois votre regard. Vous vous dites, il a peut-être été un peu quand même pendant ce quinquennat. Vous ne souhaitez pas qu'il le reste.
Je pense que la plupart des blocages et des risques de violence dans la société viennent de ce que la démocratie ne fonctionne pas bien. Pourquoi ? Parce qu'un très grand nombre de sensibilités ne sont pas représentées.
Alors on en vient
et parce que le fonctionnement des institutions fait que, en effet, le Parlement n'a pas la latitude, la reconnaissance qui devrait être la sienne, puisqu'il représente la nation.
Puisque c'est évidemment à cela aussi que vous faites référence. Ça faisait partie, on s'en souvient bien, il y a 5 ans, lorsque vous avez apporté clairement votre soutien à Emmanuel Macron. Vous considérez d'ailleurs que c'est grâce à ce soutien que vous l'avez légitimé, en quelque sorte, et qu'il vous doit donc en partie au moins son élection. Vous aviez dit, et vous lui aviez fait confiance à ce moment-là, que vous aviez besoin de plus de proportionnel. Il vous avait dit oui, il ne l'a pas fait. Pourquoi il le ferait cette fois-ci?
Parce qu'il y est engagé, et puis parce que ça. Apolline de Malherbe, quelque chose que vous savez, ça ne peut pas durer comme ça. On ne peut pas se trouver avec des pourcentages très importants, des parties très importantes de la population qui n'ont pas de représentation. Et donc, quand je dis que
là,
ça commence
aussi,
à partir
par exemple,
de 24
par le Rassemblement
avril.
National, qui dit on a une proportion de votants et on n'est pas représenté.
Comme vous savez, j'avais fait signer, fait signer à peu près la totalité, sauf un mouvement politique, le LR, mais tous les autres mouvements politiques avaient signé avec moi une lettre pour appeler à la mise en place de cette reconnaissance qui dit, vous êtes français, vous êtes électeur, vous allez
c'était
voter.
C'était une dose de proportionnel et ça n'a pas été fait.
Pas dans le mouvement que
dans
je vous indique.
Emmanuel Macron. Ah. Aujourd'hui, il dit la proportionnelle intégrale, pourquoi pas?
Oui, la proportionnelle intégrale départementale, avec un enracinement. Pourquoi pas? Et il a raison de dire pourquoi pas. Écoutez, je veux le répéter pour vous. Ça ne peut pas durer comme ça. Tous ceux qui croient qu'on va être à l'abri de tous les mouvements du monde et qu'on ne changera rien et que les gouvernants continueront à gouverner parce qu'ils considéreront qu'ils ont eu un chèque en blanc au moment de cette élection, ça ne peut pas marcher comme ça. Le passage en force, c'était ça la loi autrefois. On disait, des présidents de la République successifs, on disait, j'avais dit ça dans mon programme, donc je suis légitime pour le faire. Ça ne peut pas se passer comme ça. Désormais, il y a une sorte de construction en temps réel, d'adaptation en temps réel, qui exclut le passage en force et qui oblige à convaincre. C'est pourquoi le président de la République, vous l'avez entendu, et je suis très profondément de cet avis, comme vous savez, faut pas exclure les référendums. Si vous êtes devant une question très difficile et devant des risques de blocage, ou bien que ça heurte le sentiment profond d'un très grand nombre de nos concitoyens, le référendum est une arme excellente. Le président de la République dit, mes chers concitoyens, c'est une question difficile, vous allez la trancher.
C'est aussi ce que plaide Marine Le Pen.
Eh bien, que Marine Le Pen, elle a changé d'avis sur beaucoup de sujets, mais considérons que la démocratie...
doit aussi passer par cette expression directe et régulière, j'ai
pris des responsabilités dans cette affaire-là. La démocratie, c'est que tous les courants doivent avoir leur place, leur représentation et leur reconnaissance.
Une question sur la démocratie, justement, François Bayrou. Vous pourriez donner des sous à Valérie Pécresse?
Pourquoi pas, oui.
Elle est endettée, elle
j'ai
le dit.
J'ai fait ça assez souvent d'autres fois pour des forces politiques et personne ne l'a su et donc pas de
pour Valérie Pécresse, oui, pour Yannick Jadot. Quand vous voyez qu'ils sont endettés, alors au titre du parti pour Yannick Jadot, au titre personnel pour Valérie Pécresse, puisqu'on apprend qu'elle avait emprunté 5 millions d'euros, est-ce qu'il faut une nouvelle manière de rembourser? On se rend compte qu'il n'y aura que 4 candidats qui vont être remboursés de leur campagne,
vous
tous les autres non. Vous voulez une banque de la démocratie?
Voilà, de l'engagement qui a toujours été le mien. Il est totalement anormal que ce soit des instances privées qui décident ou pas d'accorder les moyens nécessaires par emprunt à un candidat ou un mouvement politique.
À titre personnel pour Valérie Pécresse, à aller chercher en Russie des banques russes pour Marine Le Pen.
À titre personnel, tous les candidats à l'élection présidentielle doivent à un moment ou à un autre emprunter à titre personnel. Ils peuvent avoir des garanties de leur parti politique. Je suis persuadé que LR fera ce qu'il faut à l'égard de Valérie Pécresse. Mais en effet, c'est un très grand risque. On ne se rend pas compte de ce qui pèse sur les épaules. C'est pourquoi nous devrions avoir une instance démocratique sous le contrôle du Parlement, relié à la Caisse des dépôts et consignations parce que c'est le bien de tous les Français, qui est pour mission de garantir les financements à la vie politique avec les précautions nécessaires. Par exemple, je vous prête de l'argent pour votre campagne, mais vous devez me fournir une assurance qui dise que si vous êtes au-dessous de la barre du remboursement, cette somme va être garantie par une assurance. Et il y a de très grandes...
Et pour vous, c'est l'État qui devrait se porter garant, une forme de banque de la démocratie.
C'est encore un peu plus compliqué parce que c'est pas l'État. La Caisse des dépôts et consignations, c'est pas l'État, c'est les Français.
François Bayrou,
le Parlement qui en a la maîtrise.
François Bayrou, je sais pas si vous avez vu l'échange, vous disiez, c'est bien qu'il aille au contact, Emmanuel Macron. Il a eu cet échange à Strasbourg avec une femme voilée qui lui a dit être voilée et féministe et il s'est mis à la féliciter. Il lui a dit, c'est beau de voir une femme voilée et féministe, c'est la meilleure réponse, dit-il, à Marine Le Pen, qui à l'inverse voudrait interdire le voile dans l'espace public. Le même Emmanuel Macron, il disait en avril 2018 qu'on ne pouvait pas accepter forcément féministe le voile. Au contraire, il disait même que ça disait quelque chose du rapport entre les hommes et les femmes. Il le disait sur BFM TV. Il disait que ce n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays et il appelait à ce sujet à une bataille pour l'émancipation. Est-ce que vous êtes plutôt du côté de l'Emmanuel Macron de l'entre-deux-tours, là, qui dit oui, vous pouvez être voilé et féministe, ou du côté de celui qui, il y a quelques années, disait non,
on est
pour
toujours
l'émancipation.
Pris dans ce piège. Parce que quand le candidat dit ça dans les rues à Strasbourg. En réalité, il est ému par la jeune femme qu'il a en face de lui. Il est en empathie avec elle. Et il mesure ce que ça représente. Vous savez, il y a beaucoup de nos concitoyens pour qui on dit le voile. C'est pas le voile, c'est le foulard. C'est
donc ce
la
que vous voulez dire, c'est que les deux versions sont compatibles.
Couverte.
On peut dire ça à cette femme.
On peut avoir
penser qu'il faut s'émanciper.
On peut avoir de l'émotion personnelle dans une rencontre. Et je trouve ça plutôt d'une certaine manière positif. Et en même temps avoir un jugement sur l'analyse qu'on peut faire de ce qu'il faut se couvrir la tête pour se garantir du désir des hommes. C'est ça la question.
C'est donc bien
comme vous savez, c'est moi qui ai interdit
un problème de rapport
qui ai interdit
homme-femme.
Le voile à l'école il y a 25 ans. Oui, ce signe là, il touche au rapport entre les hommes et les femmes. Mais en même temps, il y a des destins individuels. Il y a des femmes qui vont accompagner leurs enfants à l'école tout en portant le foulard parce que c'est leur tradition, leur mère, leur famille dans laquelle ils vivent. Tout ça à condition d'avoir les garanties nécessaires. Et l'école en est une. À l'école, il n'y a pas de signe religieux. Dans la vie, on fait en sorte qu'on puisse tous vivre ensemble à condition que personne, et notamment pas les lois religieuses, ne veuille imposer sa propre loi au reste de la société. Ceci, c'est ça la laïcité, et c'est inacceptable.
Merci François Bayrou d'avoir répondu à mes questions ce matin sur RMC et BFM TV. Demain, à ce même micro, mais à Avignon, on va l'emmener, ce sera Marine Le Pen qui répondra à mes questions pendant 1h, 8h30, 9h30.